France Musique. Musicopolis. Musique en Europe, un bien commun. Chapitre 2. Un tout petit coin de territoire fait le buzz sur l'Europe entière. Comme je vous le disais dans le premier chapitre de cette histoire, il y a des tas de manières d'aborder la musique en Europe. D'ailleurs, j'ai commencé par quelques symboles, l'hymne européen, l'Euroradio, l'Eurovision. Mais par quelques bouts qu'on prenne le sujet, on retombe toujours sur le fait que la musique évolue avec son temps. Monsieur de la Palice a dû le dire avant moi. Par conséquent, nous n'échapperons pas à la chronologie. Retour donc sur le Moyen-Âge, qui était, après les symboles, la deuxième partie de notre premier chapitre. Le phénomène unificateur de la musique européenne est alors le chant grégorien, en latin à l'ouest, qui a son pendant à l'est avec le chant byzantin en grec. Peu à peu se développe la polyphonie, le fait de faire chanter plusieurs mélodies différentes simultanément, selon des règles très strictes et codifiées. L'écriture polyphonique est une écriture nouvelle, qu'on retrouve à nouveau un peu partout en Europe, à l'église comme en dehors. Un peu partout, mais pas n'importe où. Puisqu'en effet, pour suivre ces règles très codifiées, il faut être assez savant dans l'art de la musique. Très savant même. Et il faut aussi exercer cet art dans un lieu où, une fois écrite, la pièce pourra être chantée. C'est-à-dire pas dans la première petite église de campagne venue. Chante-t-on la polyphonie, donc ? Réponse, dans les grands monastères ou abbayes, comme Saint-Martial de Limoges, ou dans les grandes cathédrales, comme Notre-Dame de Paris, ou encore la cathédrale de Reims, où Guillaume de Machaut, dont nous entendons un extrait de la messe, est chanoine. Ce sont des centres qui disposent d'une scola, un chœur avec de très bons chantres, bien formés, et des petits enfants de chœur qui apprennent le métier à un haut niveau. Ou bien, autre possibilité, on entend la polyphonie dans les cours des grands seigneurs qui peuvent entretenir une chapelle. Dans tous les cas, ce sont des centres qui disposent aussi d'ateliers de copie dans lesquels on prépare des manuscrits, généralement très luxueux, qui permettront de conserver et de diffuser les pièces musicales. La musique au Moyen-Âge, partout en Europe, a une fonction. À l'église, elle permet de communiquer avec Dieu, et en dehors de l'église, elle est partout. Elle accompagne aussi bien le travail que les réjouissances. Aucune fête, où que ce soit, ne pourrait se dérouler sans musique. Une musique qui se diffuse partout, grâce à plusieurs sortes de musiciens.
Per la dosur calcoliva.
les troubadours et trobaïrits, qui suivant les régions ou pays s'appellent aussi trouvères ou minnesänger, sont compositeurs et ils vont à droite, à gauche interpréter leurs œuvres, comme Bernard de Ventadorn, qui a composé ce « Canvei la Lausetta ». On trouve d'autres musiciens itinérants, les jongleurs et les jongleresses. Ceux-là, instrumentistes-chanteurs et parfois acrobates, vont partout offrir leurs services, dans les villages, les villes ou les châteaux. Autre catégorie, entre les troubadours et les jongleurs, les ménestrels et ménestrelles-le, instrumentistes et chanteurs, à l'occasion compositeurs également, qui sont eux aussi très mobiles. Soit ils vont d'un endroit à l'autre en quête d'engagement, soit ils sont embauchés de manière plus durable par un seigneur ou un roi. Seigneurs et rois voyagent beaucoup, ils ont parfois plusieurs cours dans des villes différentes. Ils vont faire la guerre à droite, à gauche, et ce sont des occasions pour les ménestrels de se rencontrer, d'écouter d'autres musiciens venus d'ailleurs et de se faire entendre d'eux. Globalement, la musique européenne de la Renaissance va se dérouler dans la continuation de celle du Moyen-Âge, avec une période de transition qui recouvre quelques décennies au début du XVe siècle vers la fin de la guerre de Cent Ans. Entre parenthèses, la première guerre à l'échelle européenne, puisqu'elle engage 18 belligérants, grands et petits. La musique a toujours une fonction, elle est toujours présente à l'église et dans les fêtes. Elle se diffuse toujours, parfois très loin de son lieu d'origine. Ce qui est très étonnant, c'est que durant environ deux siècles, les 15e et 16e, la plupart des compositeurs vont venir d'un tout petit coin de l'Europe pour se disséminer partout sur le territoire. Ce tout petit coin se trouve grosso modo entre l'Escaut et la mer du Nord, dans l'ancien comté de Flandre, qui est alors une possession des ducs de Bourgogne et qui se situe de nos jours à cheval entre la Belgique et la France. Plusieurs générations de compositeurs nés dans ce petit coin de Flandre, des compositeurs qu'on appelle franco-flamands, vont faire la musique européenne de la Renaissance. Et ceci parce qu'ils vont voyager. Dufay, par exemple, dont nous écoutions un Ave Maria Celorum, est né vers 1400 dans la région de Cambrai, où il a étudié dans la maîtrise de la cathédrale. Il a travaillé à Laon, puis à Bologne, ensuite à Rome, dans la chapelle papale, puis à la cour d'Amédée de Savoie. Il revient à Rome, il repart une dizaine d'années à Cambrai, il revient à la cour de Savoie et enfin il termine ses jours à Cambrai. Pour info, Rome-Cambrai à pied, à raison de 30 km de marche par jour, c'est 50 jours. À cheval, une trentaine de jours, une estimation bien sûr, mais qui donne une petite idée du temps passé sur les routes. Beaucoup des collègues de Dufay, du XVe siècle et du XVIe, comme Josquin Després, auteur de ce El Grillo, nés eux aussi en Flandre, ont eu le même genre de carrière. Plus ils sont renommés comme musiciens, plus ils sont recherchés par les cours les plus puissantes et les plus riches partout en Europe. Les Hockegem, Bunois, Compère, Gombert, Lassu, Villaert vont répandre du nord au sud leur art franco-flamand et leur manière de composer. cours et les grandes cours européennes disposent de chapelles, c'est-à-dire d'ensembles de chanteurs et d'instrumentistes qui participent à la musique quotidienne, religieuse et profane, et qui participent par conséquent à la gloire de leur seigneur. Josquin des Prés sera le plus bel ornement de la cour des Sforza à Milan, puis de la chapelle papale à Rome, puis de la cour de France à Paris, et encore de la famille d'Este à Ferrare. Charles Quint, quant à lui, recrute les meilleurs musiciens pour sa capilla flaminca, sa chapelle flamande, qu'il traîne avec lui d'un bout à l'autre de son empire, sur lequel jamais le soleil ne se couche. Nicolas Gombert, son maître de chapelle, le suit et le quitte seulement lorsqu'il doit aller recruter, loin de la cour, des chanteurs pour son ensemble. Quant à Roland de Lassus, né à Mons, il fera la gloire de la cour de Bavière, un passage chez les Gonzagues de Mantoue. Partout où il passe, il mêle à son style natal franco-flamand les particularités ou la langue du lieu. Ces musiciens dits franco-flamands viennent donc du même petit coin de Flandre. Il y a d'autres musiciens, bien sûr, mais ces franco-flamands-là dominent le paysage musical européen. À tel point que le répertoire du continent dans son ensemble est un répertoire franco-flamand, qui consiste partout en messes, motets et chansons. Un répertoire très unifié de style, principalement pour sa partie religieuse. Ce Sanctus est extrait d'une messe de Cristobal de Morales, compositeur espagnol de la première moitié du XVIe siècle. Il n'est pas franco-flamand puisqu'il est né à Séville. Mais il a eu connaissance de ce style par ses maîtres espagnols, puis par ses voyages. Il a sans doute rencontré Nicolas Gombert, maître de chapelle de Charles Quint, au mariage de l'empereur à Séville. Morales a d'abord eu quelques postes en Espagne, avant de se rendre sans doute à Naples, puis à Rome, où il reste 10 ans à la chapelle papale, avant de rentrer en Espagne, où on le retrouve maître de chapelle à Tolède, puis à Malaga, où il meurt en 1553. À Rome, Morales a chanté et composé dans le style européen international en vigueur, et il s'est familiarisé avec les œuvres de ses contemporains, comme par exemple la chanson de Josquin des Prés « Mille regrets ». C'est en prenant pour base cette chanson qu'il a construit sa messe. La chanson « Mille regrets » de Josquin des Prés était, dit-on, la chanson préférée de Charles Quint. Et on l'appelait pour cette raison la chanson de l'empereur. Et l'empereur n'était pas le seul à l'aimer puisqu'on la retrouve sur tout le continent sous de multiples formes. On trouve des arrangements et des variations pour voix ou pour toutes sortes d'instruments. Et elle a été reprise pendant des décennies comme le tube des tubes. Si déjà, au Moyen-Âge, les musiciens voyageaient, et leur musique avec eux, pour chercher un poste, ou par l'effet des guerres, des épidémies, ou parce que leur patron allait d'une cour à l'autre, ce phénomène s'accentue encore au XVIe siècle. Les rois et leurs suites, y compris leurs musiciens, se déplacent souvent pour administrer leur royaume ou leur empire, comme le fait Charles Quint, ou bien ils ont des rencontres diplomatiques, comme celle dite du camp du Drap d'Or en 1520, entre l'anglais Henri VIII et le français François Ier. Mais la plupart du temps, ils s'affrontent lors de batailles militaires. On se souvient de la date de celle de Marignan en 1515. En fait, le siècle n'est qu'une succession incessante de guerres et de batailles. Pour le coup, ce n'est pas le bien commun, mais le lot commun des Européens. Durant tout le XVIe siècle, on dirait que les Européens ont eu pour injonction « battez-vous les uns les autres ». Une page Wikipédia recense les guerres et les batailles du siècle. Je compte 30 guerres, et encore j'ai exclu les guerres de religion. Tous les peuples européens sont engagés. Croates et Hongrois, Français, Espagnols, Vénitiens, Milanais, Moldaves, Polonais, Suisses, Souabes, Danois, Russes, Lituaniens, Ferrarais, Pontificaux, Anglais, troupes du Saint-Empire romain germanique, Écossais. En Espagne, troupes royales contre Comuneros, Navarrais, Hospitaliers de Malte, Essois, Saxons, Paysans du Saint-Empire, Florentins, Siennois, Suédois, Néerlandais, Portugais, Valaques, Autrichiens, Transylvains, Irlandais. Et j'en oublie certainement. Bataille, compagnons, bataille, allons camper. Allons le bras dedans, le sang des ennemis trempé. Notre roi s'en vient, suivons tous son drapeau. Nul de nous n'est soin d'épargner l'or sa peau. C'est le texte plutôt rude que met en musique Claude Lejeune. Au XVIe siècle, pour les musiciens européens, la bataille devient un genre musical qui fera Florès et Longfeu, depuis Isaac, Jeannequin et Lejeune, jusqu'à Beethoven et Tchaïkovski. À la Renaissance, outre qu'elle devient un genre musical, la guerre participe au déplacement de population et à la connaissance qu'ont les musiciens les uns des autres et de leur musique. Mais heureusement, la musique se diffuse aussi par des moyens plus pacifiques. La grande invention du XVe siècle, j'ai nommé l'imprimerie, va s'appliquer de manière efficace à la musique dès le début du XVIe. En mai 1501, Ottaviano Petrucci, imprimeur de Venise, publie son premier volume de musique. C'est une anthologie de 96 chansons profanes à plusieurs voix, françaises ou néerlandaises, toutes donc dans cet idiome de polyphonie franco-flamande dont je vous raconte le développement depuis un moment. Ces chansons sont publiées sans texte, peut-être pour être plus international et aussi pour montrer qu'on n'est pas obligé de les chanter et qu'on peut juste les jouer aux instruments. Voilà qui nous montre la popularité de cette musique franco-flamande, puisqu'en effet, si un entrepreneur décide de la publier, c'est qu'il s'attend à la vendre, et pas seulement à Venise, mais dans toute l'Europe. Et bien sûr, par là, il va contribuer aussi à la répandre encore davantage. Pour connaître un peu les goûts musicaux du public européen dans les années 1500, il suffit de se pencher sur les publications de Petrucci, le premier éditeur vénitien. Son premier volume de chansons est édité en 1501, donc, et réédité en 1503 et 1504. Il avait dû faire un malheur avec. Il en publie un second en 1502, bientôt réédité lui aussi. Quelques mois plus tard, on passe à la musique religieuse avec des motets de divers auteurs, franco-flamands comme de bien entendu. À l'automne 1502, premier volume consacré à un seul compositeur, Josquin des Prés. Surnommé le prince des musiciens, on comprend pourquoi. C'est un volume non pas de chansons, mais de messes, destiné peut-être plutôt aux églises qu'aux amateurs. Puis ce seront encore des motets et à nouveau des recueils mono-auteurs de messes, de Obrecht, Brummel, Ghiselin, Delarue, Agricola, les plus demandés de l'époque sans aucun doute. Enfin, le 13e volume, en 1504, sera plus régional. Ce seront des frottole, c'est-à-dire des chansons italiennes. Les frottole, éditées par Petrucci, voilà qui a dû se vendre comme des petits pains et se répandre dans toute la péninsule italienne et ailleurs en Europe. Suffisamment pour que notre éditeur en publie 9 volumes en 5 ans. Un succès qui a rapidement inspiré d'autres éditeurs. Bientôt, d'un bout à l'autre du continent, on publie de la musique avec des centres principaux à Venise et à Rome, à Augsbourg et Nuremberg, à Paris, à Anvers et bientôt à Amsterdam et à Londres. Now is the month of May, when merry lads are playing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Cette joyeuse chanson de Thomas Morley a été publiée en 1595 à Londres, mais elle a été inspirée par une chanson italienne publiée à Venise 5 ans plus tôt. Elle connaîtra à son tour une édition en Italie. Voici donc comment les musiques voyageaient. Peu de temps après que les premiers volumes sortis des presses de Petrucci à Venise se sont répandus sur le continent, un autre événement va affecter l'Europe durablement, la Réforme. Un événement d'une importance majeure sur le plan de la spiritualité et de l'aspect moral de l'Église, mais qui, suivi de sa contre-réforme, va aussi déclencher une série de guerres de religion qui vont ravager le sol européen pendant plusieurs siècles et provoquer des déplacements de population et par conséquent de musiciens, extrêmement important, et avoir aussi des conséquences sur le développement de la musique européenne. Ein Festburg ist unser Gott, le choral de Martin Luther par l'ensemble Himmlische Kantorei. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Dans le 3e épisode de cette série, nous poursuivrons avec une nouvelle invention aux répercussions économiques très importantes. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Léa Gramusset pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation, Tahar Bouklifa et Dofar Guérid pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.